Bonjour à tous dans cette tente où il fait une bonne chaleur en ce début d'après-midi. Pour une table ronde consacrée à la lutte du bien contre le mal, point d'interrogation, hein, et où j'ai le plaisir donc d'accueillir 5 auteurs, hein, puisque Régis Godin est parmi nous. Régis Godin, donc je vais le faire par ordre alphabétique, hein, a été remarqué l'an dernier pour le premier tome du Sang des 7 rois, donc c'est une saga en 7 tomes qui paraît chez La Talente. Depuis, les tomes 2 et 3 sont parus. Le tome 4 ne va pas tarder. Donc voilà, amis lecteurs, suivez le rythme. Hein. Il faut, la saga continue. Gabriel Katz, qui nous revient cette année à Épinal, après la trilogie Le Puits des Mémoires, qui avait reçu le prix Imaginal. Donc avec un nouvel opus, toujours chez Scrinéo, La Maîtresse de Guerre. On passe à Karina Rosenfeld, dans cet ordre alphabétique, donc qui est une figure de l'imaginaire pour la jeunesse, auteur des séries d'Oregon, c'est comme ça qu'on prononce, d'Oregon, et La Quête des Livres Monde chez La Talence Jeunesse, La Quête des Livres Monde qui se poursuit donc avec La Quête des, si tu peux le montrer, La Quête des Pierres de Luette, donc où on retrouve les mêmes personnages. Un petit peu après le moment où on les avait laissés à la fin du dernier tome de La Quête des Livres Monde. Elle est auteure également de romans de science-fiction chez Soon, notamment Les Sentinelles du Futur, et puis de deux séries chez Robert Laffont, Phoenix et La Symphonie d'Abyss qui commence, des Abysses qui commencent. Magali Segura est connu comme l'auteur du cycle de Leylan, qui est reparu chez, dont l'intégrale est reparue chez Bragelonne, et puis d'une trilogie qu'elle termine cette année, qui s'appelle Éternité, et dont le dernier tome s'appelle Des Dunes sous le vent. Donc, je fais tout, hein, voilà. Auteur, montrez vos textes. Donc, Des Dunes sous le vent, Éternité, tome 3, donc toujours chez Bragelonne. Et enfin, voilà, Adrien Thomas qui a compris où je voulais en venir, hein, et qui fait sa propre publicité. Donc, avait lui aussi remporté le prix Imaginal, on est bien entouré, pour son premier roman, La Geste du Royaume, et du sixième royaume. Alors, que, franchement, j'avais aimé et défendu ce roman, et qui depuis a publié deux autres textes chez Mnemos, La Maison des Mages et donc Notre-Dame des Loups, dont il va nous parler aujourd'hui. Donc la thématique de la table ronde, hein, invite à dépasser le traditionnel reproche de manichéisme fait à la fantaisie comme présentant des univers très polarisé entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, hein, l'ordre et le chaos. Alors, est-ce que cette opposition entre le bien et le mal est vraiment dépassée, a vraiment vocation à l'être ? C'est pas forcément le cas chez tous nos auteurs, donc on va choisir, choisissez votre camp. Effectivement, je vais commencer donc par ceux qui, Adrien Thomas et Gabriel Katz, vont effectivement davantage dans le sens d'une ambivalence, d'un relativisme moral. Je vais essayer de ne pas jeter mes feuilles à terre à chaque fois. Donc, dans ce nouvel ouvrage, Adrien Thomas, qui est inspiré par l'univers du western, hein, et par le folklore d'Amérique du Nord. Les veneurs, qui sont le groupe de chasseurs qui donc mènent la lutte aux avant-postes contre les lycanthropes, les Wendigo qui sèment le chaos, sont quasiment aussi bestiaux et aussi, enfin voilà, c'est vraiment un groupe de dur à cuire dans la tradition du western. Donc on va effectivement vers ce noircissement, y compris des héros.
Oui, c'est ça. C'est, oui, le but était de montrer que les les chasseurs étaient à peine meilleurs que les loups-garous, montrer qu'il y avait des parts de sauvagerie, d'animalisme, de bestialité dans chacun, et que en fait le principe c'est que en tant que groupe soudé, ils sont censés maintenir un certain nombre de règles que les lycanthropes ne respectent pas eux, et pour eux c'est ça qui les distingue du mal absolu qui est les loups-garous, c'est qu'ils sont pas aussi bestiaux, ils sont pas aussi ils ont leur mission, ils ont leur objectif, ils ont leurs règles, et c'est ça et quasiment seulement ça qui les distingue des bêtes qu'ils poursuivent en fait.
Et par rapport à vos romans précédents, vous avez l'impression d'être d'avoir été plus vers le clair-obscur
Alors j'ai un peu varié. Les premiers romans, le premier c'était une opposition plus entre la nature et le progrès, donc où je laissais un peu plus le choix au lecteur de choisir entre le camp qu'il voulait suivre, même si c'était souvent la nature que les gens choisissaient, et encore pas tous. Dans le deuxième roman, j'ai fait quelque chose d'un peu plus différent. J'ai joué avec une entité qui était à la fois bénéfique et maléfique, et où c'était plus difficile de choisir ton camp. C'est-à-dire que la Maison des Mages, c'était une entité qui apportait à la fois la protection, l'éducation, la santé à toutes les populations humaines, locales, etc. Et en contrepartie, c'était une structure très avide de pouvoir qui voulait mettre la main sur tous les royaumes et qui a procédé à des génocides et des guerres d'extermination des elfes, des nains, des autres créatures qui considéraient indignes de partager le monde avec les humains en fait.
Oui, c'était quand même un.
Donc, le but,
voilà,
c'est choisir un peu.
Méchant quand même.
Selon où on se plaçait, selon les populations qui n'étaient pas au courant des guerres d'extermination, la Maison des Mages c'était un truc de complètement bénéfique, complètement génial pour la population. Et quand on voyait l'ensemble de la photo, c'était un peu plus glauque du coup. Et là, du coup, dans Notre-Dame des Loups, j'ai essayé de faire quelque chose clairement avec des personnages qui ont très très peu de lumière entre guillemets en eux, qui sont plutôt. C'est vraiment, il y a la seule chose lumineuse quasiment en eux, c'est la conviction qu'ils sont meilleurs que ceux qui chassent. Et encore, c'est une conviction qui finit par craquer à certains moments.
Oui, bon, on est bien heureux que ce soit quand même. Que ce soit quand même eux qui gagnent à la fin, hein, sans vouloir spoiler trop. Gabriel Katz, il y a aussi chez vous une remise en question du bien et du mal tel qu'on peut se les imaginer au départ, puisque votre héroïne qui s'appelle Kaéline part combattre aux côtés d'une armée de libération. Elle part
qui
libérer.
Qui se fait appeler Armée Libération.
Elle part avec l'idée qu'elle va libérer un peuple, et puis en fait elle découvre donc dans le sud, dans cet Orient fantasmatique de d'Amnas, un peuple auquel elle va s'attacher, et assez rapide. Enfin, il y a une inversion de ce qu'on pensait.
Relative, oui. Ouais. Relative, parce qu'en fait, le peuple qu'elle va trouver n'est pas non plus extraordinaire. C'est pas une espèce de retournement manichéen. On se dit, ça y est, ils partent comme les croisés, finalement, s'apercevoir que sur place, personne ne leur veut du mal. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que sur place, c'est pas des barbares, des cannibales, des horreurs, mais c'est pas non plus des anges. Ils sont esclavagistes, comme on le dit, etc. Ce qui fait que c'est un peu en demi-teinte, tout ça.
Oui, n'empêche que c'est plutôt là-bas qu'elle va recruter ses alliés,
oui,
dans le système des personnages. Ceux qu'elle pensait être son camp vont tout de même être davantage contre elle que ceux qu'elle a rejoints.
C'est vrai.
Elle va recruter ses alliés dans le camp des ennemis.
Elle part au début avec des illusions extraordinaires en disant, voilà, on met tous une écharpe rouge, on va libérer les méchants esclavagistes qui vivent au sud, qui sont horribles, qui sont cannibales. Pendant tout le roman, elle cherche les cannibales qu'elle ne trouvera pas. Il n'y en a pas. Donc, au bout d'un moment, je spoil un petit peu en fait. Donc, au bout d'un moment, elle s'aperçoit effectivement que ce qui est dit, ce qui est induit, etc., c'est juste une question d'angle en fait. Et que vu finalement de l'autre côté, c'est pas du tout aussi simple que ça.
Oui, cette question du point de vue, on pourra y revenir, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de comme ça que se construisent les oppositions éthiques, morales. Alors, en revanche, donc, dans le camp des. Après, c'est ma lecture, hein, donc voilà, c'est très. Vous êtes complètement amené à me dire si j'ai raison ou pas. Pour moi, Magali Segura et Régis Godin, il y a plus quelque chose de tranché entre eux, le bien et le mal, avec notamment de très très méchants dans Des dunes sous le vent, le personnage de la reine qui retient prisonnier le petit Gélis, bon ça on le sait dès le début donc je peux le dire, et qui le soumet à un traitement épouvantable. C'est vraiment une figure d'un mal relativement absolu contre lequel la famille va devoir se faire bloc et se reconstituer. Et on a quelque chose qui est un peu qui ressemble un peu à ce que pourraient éprouver des parents dont l'enfant a été a été enlevé, dont ils craignent ce qu'il peut subir. Et effectivement, on a avec cette reine une...
J'ai un gros méchant. Ouais. J'ai des moyens et des petits. Et dans les moyens, j'en ai qui viennent du camp des gentils, qui sont passés dans la folie. Donc Et c'est vrai que ce personnage, oui, est particulier. Enfin, je voulais que ce soit un cran vraiment absolu, un mal absolu. Mais tous mes sorciers doivent donner une qualité pour obtenir des pouvoirs auprès des dieux. Et donc, plus on donne une qualité, plus on est puissant. Et ces personnages qui est déjà un psychopathe à la base se retrouve à donner son sens moral, donc je pouvais aller très loin. Et je ne suis pas allée aussi loin que j'aurais pu.
Oui, alors après, effectivement, il y a une opposition interne entre deux familles de magie, et donc effectivement des bons et des méchants des deux côtés, les majeurs, les mineurs,
Mais même les guerriers de l'acier qui sont censés être les hommes justes et droits rendent tous les sorciers de petite catégorie esclaves. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment justes ou pas ?
Oui, il y a l'opposition également, effectivement, entre les guerriers et les magiciens qui ont chacun leurs bons aspects et qui se targuent d'être
la voix, d'être les possesseurs. Mais entre eux, non, ils sont quand même... ils ont peut-être un idéal, de justice, mais pour eux, les sorciers, ce n'est que le mal, alors que non, pas forcément, puisque la dernière élue... qui est la mère du petit garçon, est une sorcière au contraire extrêmement altruiste, qui elle a donné un défaut au dieu, donc elle n'est pas très puissante. Et donc elle, je dirais que c'est plutôt le bien, alors qu'elle fait partie du mauvais clan.
Régis Godin, les gardiens autour de Lothar s'enfoncent également dans un certain sadisme au fil des volumes. Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'incarner, de polariser le mal ?
Non, pas du tout, en fait. Le problème du Sang des Sept Rois, c'est que ça va être un très long livre. Compte tenu que ça va être un livre qui fera, une fois que ça sera terminé, entre 2 et 3 000 pages, forcément, dans les premiers tomes, les choses se posent. Et l'évolution dans les différentes factions va se faire finalement d'une manière assez progressive. Au départ, naturellement, c'est ce que je pose. Je pose effectivement qu'il y a vraiment des méchants. La seule vraie méchanceté qu'on va trouver, c'est une méchanceté qui peut, au fil des tomes, sans vouloir trop en dire non plus, on va peut-être à un moment donné être amené à la comprendre. Je ne dis pas adhérer aux moyens qui ont été mis en œuvre, mais à comprendre, il y a des raisons pour que les méchants soient méchants, en général. La méchanceté absolue, le mal absolu, c'est un mal qui va être un peu désincarné, un mal qui n'a pas d'histoire, et qui ne comprend pas, et qui n'a pas la conscience, en quelque sorte, ou alors il y a conscience qu'il a envie de faire le mal pour le mal. Ce sont des rhétoriques qui n'ont plus vraiment cours dans la littérature actuellement, parce que les contextes politiques dans lesquels nous vivons ne sont plus ceux-là. On avait, c'est vrai, dans la fantaisie d'après-guerre, donc un monde extrêmement bipolaire, dans lequel il y avait les nazis et leurs alliés contre le reste du monde. Ensuite, il y a eu la guerre froide. Ensuite, on a ces rhétoriques entre le blanc et le mal qu'on retrouve parfois du côté des États-Unis, donc sous l'ère Bush, par exemple. C'est une espèce de réminiscence un petit peu de ces approches-là. Or, aujourd'hui, on a un monde qui est extraordinairement multipolaire. On a beaucoup plus avec la médiatisation, avec les réseaux sociaux, avec la découverte d'autrui, tout simplement. On a une très grande facilité à retourner ce regard, et à comprendre les motivations des gens. Le mal abstrait dans nos sociétés, on a beaucoup plus de mal à le concevoir et à le comprendre. En réalité, par rapport aux gardiens, il y en a qui vont être foncièrement méchants, mais ils vont être foncièrement méchants parce qu'ils ont des brisures, en général. Il y a des brisures dans leur vie, des fêlures qui vont faire qu'ils vont être non pas en recherche d'un but politique, par exemple, mais qui vont être dans l'expression d'une violence. Finalement, ça, c'est une forme du mal, bien sûr, mais qui est une forme du mal qui n'est pas institutionnelle. C'est un mal individuel. Au fil des tomes, il y a d'autres personnages qui vont incarner le mal, mais avec d'autres types de motivations. C'est-à-dire que on va avoir notamment un gardien qui s'appelle Bartlan. Lui, on lui demande de faire des choses, mais il n'a pas le sens. C'est-à-dire qu'on lui demande d'appliquer, il va appliquer avec beaucoup de plaisir, hein, des choses qui sont tout à fait cruelles. Et pourquoi est-ce qu'il incarne de cette manière le mal ? Tout simplement parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait ça.
Il ne se pose pas la question.
Il ne se pose pas la question. On lui demande de le faire. Il le fait avec beaucoup de conscience et beaucoup de sadisme également. Et donc il va l'appliquer, mais derrière, c'est une espèce de cruauté sans conscience. Et je crois que si on peut définir effectivement dans ce que devient au fil des tomes le son des sept rois, c'est vraiment autour de la question du mal, du bien et du mal, hein, l'idée que naturellement, comme ça a été dit précédemment, c'est une question de focalisation, c'est une question de champ et de contre-champ. Quand on se met dans la peau des uns ou dans la peau des autres, si on comprend leurs moyens d'existence et leurs moyens d'action sur le réel, et bien à ce moment-là, ça peut plus être complètement le mal, hein, parce qu'on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire à leur place. Mais naturellement, dans un aussi long livre, c'est un jeu de pistes, c'est un puzzle, et les pièces s'additionnent les unes aux autres au fur et à mesure que le texte se déroule, et cette première impression extrêmement manichéenne du départ ne va pas tenir, parce que la vie n'est pas comme ça. Voilà. La vie n'est pas comme ça, et le monde n'est pas comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre, dans un livre comme celui-ci, à voir les clés facilement. Elles se dévoilent, ce sont des univers qui sont imbriqués, et bien malin, au bout de quelques tomes, qui peut juger Lothar, par exemple ? On n'a pas tout. On sait que lui a des données, qu'il nous a pas, on n'a pas tout pour juger, en fin de compte. Et c'est aussi une question, un travail sur la question du jugement.
Alors, en même temps, un tel relativisme, qui est peut-être effectivement celui de nos sociétés, est-ce qu'il peut tenir, donc je me tourne plutôt vers Carina Rosenfeld, quand on écrit pour la jeunesse, donc pour un public qui est quand même en attente, en besoin de repères moraux un peu plus clairs, hein, et souvent on constate, hein, que la littérature pour la jeunesse, est, enfin, pour moi, c'est vraiment un de ses rôles, et c'est d'ailleurs un des rôles de la fantasy, hein, que de poser encore des questions morales qui sont relativement aujourd'hui peu posées dans la littérature, parce que justement, on part du principe que tout est possible, que tout est justifiable. La fantasy pose encore ces questions-là, et en particulier la fantasy pour la jeunesse. Donc, ça déplace pour vous les enjeux moraux, le fait de penser à ce public ?
Déjà, j'écris pas de fantasy. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, mes méchants.
Les livres mondes.
Enfin, ah non, c'est pas du tout.
Non, on dirait que c'est du fantastique.
C'est de la science-fiction.
De la science-fiction.
Oui, fantastique, science-fiction, c'est à la limite, mais c'est pas du tout de la fantasy. Moi, j'ai pas de créature magique. Donc, le méchant chez moi, c'est pas quelqu'un qui est doté de pouvoir, qui va utiliser pour faire le mal. Pour moi, c'est des êtres humains qui vont faire des choix. Et le choix qu'ils vont faire, c'est est-ce que je vais choisir d'être un méchant ou est-ce que je vais choisir d'être un gentil ? Ça va même encore plus loin, c'est est-ce que en faisant un acte qui, moi, me paraît généreux pour moi ou pour ma famille ou pour mon entourage proche, ne va pas faire du mal à un plus grand nombre ? Donc tout est relatif, en fait. J'essaye de créer, au contraire, des personnages très humains qui ont des défauts. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a que des teintes de gris. Parce que on a tous en nous une part d'ombre et une part de lumière. Et chez mes personnages, c'est est-ce qu'ils vont tendre vers cette part d'ombre ou est-ce qu'ils vont tendre vers cette part de lumière. Et j'aime bien créer des méchants entre guillemets. On peut presque justifier leurs actions. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les rendre suffisamment humains et suffisamment aimables dans le sens propre du terme, pour que finalement, à la fin du livre, même si on les aime pas et même si on se dit ce qu'il a fait, ça m'a pas plu, eh ben, on puisse comprendre quand même et on puisse se dire, est-ce que moi, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais choisi de faire ? Et là, les enjeux moraux sont importants parce qu'ils sont face à une réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des pouvoirs magiques, on n'est pas dans des... j'ai rien contre, hein, c'est juste par rapport à mon histoire, je ne suis pas du tout en train de critiquer. C'est juste que, voilà, on est humain et on est face à des situations et on l'est tous à un moment de notre vie. Et qu'est-ce qu'on va choisir de faire ? Et dans la construction de la jeunesse, de l'enfant, de l'adolescent, il y a tout cet aspect de quel adulte je veux devenir, dans quelle mesure je veux acquérir une personnalité qui va être, entre guillemets, dans la lumière ou dans l'ombre, hein, parce qu'on n'est quand même pas super, super méchant comme ça. Mais je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes à être posées. Et c'est intéressant, justement, de savoir disséquer un petit peu quelle est la plus grande part dans chacun d'entre nous et dans chacun des personnages que j'écris. Et j'aime bien ce côté, on est pas loin de pouvoir excuser le méchant, quand même. Il a des motivations qui, finalement, font qu'on se dit, mais en fait, j'aurais bien pu, moi aussi, déraper et devenir ce méchant. Voilà. Et ça le rend à la fois proche et lointain de nous. Donc j'aime bien créer ce genre de limites pas toujours claires, pas pour perdre le lecteur, mais au contraire pour qu'il se dise, mais finalement, ce méchant, il me ressemble aussi. Et est-ce que je pourrais devenir comme lui? Et si j'ai pas envie de devenir comme lui, qu'est-ce que je dois faire pour pas que ça arrive?
Voir, il y a même un exemple dans Les Sentinelles du Futur où ce qu'on croit être le méchant s'avère ne pas l'être.
Voilà, quand
du
on
tout.
Comprend ses motivations, quand on se dit ah, mais en fait, il l'a pas fait pour être méchant du tout. Il y a un retournement de situation. Oui. Et moi, j'aime bien, pas brouiller les pistes, ce serait peut-être pas aussi fort que ça, mais oui. Montrer qu'on peut avoir des motivations qu'on pense nobles ou justes, et quand on change de perspective, ne le sont pas. Ou alors des choses qu'on pense être ni nobles ni justes, et bien quand on change de perspective, ça le devient. Voilà, donc tout est une question de point de vue.
On y revient. Donc voilà, en fait, tout le monde est relativement, malgré les camps que j'avais essayé d'attribuer à chacun, la relativité et le point de vue de chacun s'imposent dans tous les cas. Mais du coup, jusqu'où peut-on aller dans ce règne de l'ambivalence, hein? Donc, que pensez-vous de l'évolution actuelle vers une fantasy de plus en plus violente, de plus en plus sombre, de plus en plus âpre et polémique qui accompagne à peu près chaque semaine les diffusions des épisodes de Game of Thrones, par exemple. Voilà, vous êtes plutôt Tolkien ou plutôt Martine?
Alors moi, je ne suis pas Game of Thrones.
Ouh.
Du coup, je me suis renseigné avant, parce que si on m'embête trop avec ça, je peux pas lancer les spoilers.
Joe Abercrombie, ou enfin, voilà, tout ce qui est ce monde de la gritty fantasy, voilà, d'une fantasy plus...
Moi, je pense que en fait, ça, c'est le syndrome du fait que les gens en ont marre du gentil héros, en fait, tout simplement. C'est qu'ils se retrouvent de moins en moins dans le gentil gamin de 13 ans qui découvre qu'il a une épée magique ou des super pouvoirs et qu'il doit sauver le monde. Ça finit par énerver tout le monde. On est beaucoup passé par là, et le renouvellement passe par des personnages de plus complexes, plus sombre, probablement plus intéressant, et du coup effectivement plus humain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gentils qui prennent toujours la bonne décision. Des fois ils peuvent se planter, des fois ils peuvent se laisser envahir par la colère, la jalousie, par des émotions négatives, et prendre des décisions en fonction de ces sentiments négatifs. Enfin, on a besoin de gens de plus en plus humains, de plus en plus faillibles, et de moins en moins parfaits. On a, à mon avis, moins besoin d'exemples, et plus besoin de gens à qui se relier, quoi.
Oui, alors jusqu'où la dégradation du héros
Faut pas non plus. Enfin, faut qu'il y ait un capital sympathie minimum pour un héros, je pense. C'est obligatoire. Sauf exception, il y en a qui parviennent, mais même les héros les plus méchants, mesquins, déloyaux, etc., ils ont en contrepartie, généralement, c'est toujours la même recette, c'est un charisme monstrueux.
Oui, ou des failles dans leur histoire, voilà, qui permettent de les humaniser. Voilà,
le but, c'est de pouvoir s'identifier un minimum. C'est-à-dire, bon, c'est un enfoiré, d'accord, mais il a la classe. Donc, ça intéresse. Voilà, c'est ça. Ou alors, c'est un enfoiré, mais il a une histoire qui explique que il faut une bonne... voilà, encore, Dark Vador. Voilà, il faut toujours un capital sympathie qui donne envie de s'intéresser au héros, mais un capital... de plus en plus négatif pour se dire « Ah ouais, mais il est profond, il est intéressant, et j'aurais pu, comme disait Karina, finir comme lui si j'avais pris d'autres embranchements. »
Oui, mais il faut des polarités aussi pour que la narration puisse fonctionner. Enfin, il faut
des oppositions. Faut des oppositions. Après, c'est vrai que la partie bien et mal est, à mon avis, moins présente maintenant. Généralement, c'est plutôt deux objectifs qui s'opposent, qui ne sont pas forcément bons ou mauvais. Généralement, quand deux royaumes se battent, par exemple, c'est pas forcément parce que l'un, c'est des méchants, et l'autre, c'est les gentils. C'est qu'ils ont tous les deux des objectifs différents, et au bout d'un moment, ils se mettre dessus pour savoir qui c'est qui est le plus fort, et c'est lui qui déterminera qui c'est qui a raison, qui sait au final qui est gentil, parce que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, quoi.
Gabriel,
ouais, tu parlais de Game of Thrones tout à l'heure. Je crois qu'ils sont vraiment en train d'ouvrir la voie à ce niveau-là, au niveau du public. C'est-à-dire que c'est un jeu d'ambition, Game of Thrones. C'est-à-dire que finalement, méchant, gentil, Il n'y a pas de... Oh, il y a deux, trois personnages qui sont bien gentils, qui finissent en général décapités, tout ça. Mais ils sont en train de mettre en place un jeu d'ambition, une mécanique d'ambition qui fait que chacun est là avec ses enjeux, chacun est là avec ses buts, et ça n'a plus rien à voir avec je suis gentil, je suis méchant, je fais le mal, je fais le bien. C'est je vais là où je décide d'aller. Donc finalement, en regardant l'épisode de Game of Thrones, il y a des gens qui s'attachent à tel ou tel personnage, d'autres qui détestent tel ou tel personnage, et au final, c'est super dur de trouver le méchant et le gentil là-dedans. Quoi. Il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu caricaturaux, et encore. Tout le reste, c'est vraiment c'est soit un jeu d'ambition, soit un jeu d'intérêt, soit un jeu de pognon, soit... Il y a vraiment des choses extrêmement concrètes qui se rattachent vraiment à la vraie vie, et qui font que finalement dans la vraie vie, qui s'arrête un beau jour en disant « bon, là je vais être super méchant, je vais faire le mal, je vais torturer les petits-enfants », tout le monde s'en fout en fait. Ça c'est dans les contes de fées, c'était une mécanique de contes de fées qui s'était étendue à la fantasy à la suite de Tolkien. Aujourd'hui on n'en est vraiment vraiment plus là en fait, on en est aujourd'hui à des histoires humaines. Donc je pense que finalement on glisse derrière ce phénomène-là.
Oui, mais
ce
avec
phénomène-là,
une certaine hein. violence faite au lecteur, au lecteur ou au spectateur,
Avec une surenchère épouvantable de violence, voilà, je suis tout à fait d'accord.
Donc humain, bon, voilà, moi, c'est des conceptions de la nature humaine qui s'opposent.
Ouais, mais qui sont très très réalistes finalement. Parce que quand on voit ce qui se passe un petit peu partout, c'est plutôt ça qui se passe que ce qui se passait dans les romans avant.
Je crois que vous êtes des pessimistes.
Hein. Non, non, on est réalistes.
Je vais avoir du mal à être optimiste avec mon grand méchant. C'est pas un comment dire. Moi, je voulais justement qu'il soit un mal absolu, c'était voulu, mais j'ai évité la pédophilie, j'ai évité la zoophilie, le cannibalisme m'a semblé la moindre des maux. Donc voilà, mais j'aurais pu faire plus méchant, mais ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, c'est pour l'histoire. Je vais quand même pas massacrer non plus mes personnages, ça n'aurait eu aucun intérêt. Et je pense que chacun doit avoir justement une part de mauvais, parce que nous avons tous une part de mauvais pour s'identifier aux personnages. S'ils sont tout mignons, on peut pas y accéder. Ça n'a plus l'intérêt de les suivre.
En même temps, vous mettez effectivement un enfant face à un monstre.
Ah ben l'enfant, lui, peut devenir encore plus monstrueux.
Ouais, tout à fait,
donc
tout à fait. Le monstre a pour but de l'emmener dans son...
Voilà, l'enfant est né sorcier, donc il peut donner à son tour quand il pourra... quelque chose aux dieux pour être plus puissant, puisqu'en plus, né d'un père guerrier de l'acier, il a la faculté que n'ont pas les sorciers de pouvoir toucher l'acier. Donc il peut devenir absolument invincible, et donc le plus grand méchant de l'histoire. Et ça.
C'est l'histoire de tentation.
Voilà, exactement.
La tentation du mal.
Moi j'ai trouvé dans Game of Thrones, il y a quand même un glissement très intéressant, je trouve, qu'on ressent mieux dans le livre que dans la série, parce que la série ça va très vite. Un livre qui fait plusieurs centaines de pages, bon, voilà, trois quarts d'heure après, on a parcouru un univers entier. Et dans le livre, il y a une temporalité qui est beaucoup plus intéressante. Et ce que je trouve, c'est qu'au départ, dans les premiers tomes, on sait vraiment qui sont les bons, qui sont les méchants. On commence avec les Stark, on va les suivre, et puis les autres sont à la fois régicides, ils font des enfants entre eux, il y a quand même vraiment des méchants et des mauvais. Ils combinent, et donc d'un côté, on a les Justes du Nord qui vont descendre vers une espèce de, enfin, pour non pas forcément reconquérir le pouvoir, parce que c'est pas le cas au départ, mais ils sont de bonne volonté, et derrière il y a quand même des vrais méchants, et les vrais méchants vont à un moment donné on va être mis en doute, et il va falloir attendre, je vais pas trop en parler pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont ni lu l'histoire ni vu la série pour l'instant?
Moi. Oui.
Donc je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas en dire trop, mais c'est vrai qu'il y a un retournement, c'est-à-dire qu'on démarre sur de la fantasy assez classique avec effectivement des vrais bons et des vrais méchants, et puis à côté de ça, à un moment donné, au bout de quelques tomes, je ne sais plus lequel, eh bien, on se retrouve à relativiser, et ça se synchronise un petit peu avec le moment où il va faire intervenir une autre forme de méchanceté, qu'est le salaud. Et on passe finalement d'une vision manichéenne où c'est une partie de la société qui va être le bien et une partie qui va être le mal, et au moment où on va relativiser, vont arriver des personnages qui sont véritablement des psychopathes. La figure du mal redevient manichéenne, mais au travers de l'humain et puis au travers des faits sociaux, je trouve. Vous retrouvez, je dis pas le nom des personnages parce que puisque je vais
faire
le sujet.
J'essaie de les retrouver aussi, j'arrive pas là.
Bon, je cherche. Par exemple, je vous donne un indice.
J'ai vu que la série. Hein.
Je vous donne un indice. Il y a des gens qui aiment bien retirer la peau des autres, par exemple, et puis qui prennent à vivre plaisir et qui sont. Il y a aussi des gens qui, par le biais certainement de la consanguinité, ont le pouvoir et n'en font pas forcément des choses forcément très amusantes. Voilà. Ok. Donc effectivement, c'est au fur et à mesure que la famille Lannister, par exemple, s'humanise avec tout cette travers l'humanité, eh bien, on fait ressortir le vrai mal, qui est un mal individuel et puis un mal collectif, je trouve.
Oui, tout à fait. Mais globalement, il n'y a du coup plus personne qui soit vraiment blanc.
Enfin, voilà, on a une espèce
d'évolution vers le... Ouais.
C'est-à-dire qu'au démarrage, tous les gens qui sont vraiment bons, gentils, justes, etc., de toute façon, il les fait disparaître. Certainement parce que sur le plan de la narration, ça bloquerait trop. C'est vrai que quand les gens n'ont que des qualités, il n'y a pas grand-chose à en dire, malheureusement. Hein, et de ce fait-là, quand les gens... il va faire disparaître une quantité astronomique de personnages. Enfin, ça aussi, je pense que c'est assez étonnant. Ça a beaucoup surpris, et ça m'a surpris au niveau de la lecture, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir une histoire qui s'installe avec des personnages qui vont être relativement fixes et qu'on va garder jusqu'à la fin, qu'il nous emmène sur des fausses pistes. C'est-à-dire qu'on va aller avec les Stark jusqu'au bout, sauf que non. Il va y avoir certainement une grande bataille à la fin, entre deux grandes armées, une grande bataille, avec un schéma extrêmement connu, mais pas du tout. Ils vont mourir d'une manière absolument absurde, par la trahison, et voilà. Et quand c'est pas le poison, c'est la trahison politique. Quand c'est pas ça, ça va être... voilà, ils vont se faire massacrer, alors que dans un moment qui n'était pas du tout dédié à la violence, hein, et on l'a pas vu venir. Et c'est ça qui en fait vraiment une violence plus humaine, je pense. Une violence plus humaine, et qui rapproche, hein, je pense, beaucoup de la violence réelle, hein, réelle dans l'actualité, dans l'histoire.
Oui, qui est absurde et qui surgit à tout moment. Alors, on est quand même loin de telles horreurs dans vos romans, Karina Rosenfeld. Bon, même question, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que vous êtes sensible à l'évolution, à cette évolution de l'imaginaire vers, en SF, des dystopies, beaucoup, en fantasy, donc une fantasy très noire, donc un espèce de noircissement de ce qui est présenté. Et jusqu'où peut-on aller pour la jeunesse? On voit assez loin déjà.
Pour la jeunesse, peut-être que Game of Thrones, c'est un peu too much, mais je pense qu'il faut maintenant plus fixer de limites en soi, c'est-à-dire que si on se met des barrières tout de suite, on ne va pas explorer toutes les motivations d'un gentil ou d'un méchant, qui pour moi sont jamais complètement gentils ni complètement méchants. Oui, si, c'est sûr qu'on ne va pas dépecer des gens dans des bouquins qui s'adressent à des 10 ans, quoi, ça c'est sûr. Les décapitations, tout ça, on évite. Mais il peut y avoir des morts, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir de la violence. Après, ça dépend aussi comment on la décrit. Hein. Il y a des mots qu'on peut utiliser, il y a des métaphores qu'on peut utiliser, il y a des descriptions. Tout dépend aussi comment on dit les choses. Voilà. Moi, de mon goût personnel, les trucs trop gore et tout, c'est pas mon truc. Voilà. Mais ça, c'est vraiment mon goût à moi. Après, ça me gêne pas qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Hein. Moi, j'ai vu les Game of Thrones. Bon, bah, je regarde. Voilà. Et je sais que c'est pas quelque chose que j'écrirai un jour. Que ce soit pour l'adulte, pour la jeunesse, peu importe, c'est pas mon univers à moi. Moi, je navigue dans un autre univers que je me construis de livre en livre, et je vais m'imposer des limites ou que je vais dépasser peut-être dans certains bouquins. Je me souviens d'une chose que m'a dite une de mes éditrices, Mireille Rivalan, chez La Talente. Quand j'ai commencé, elle m'a dit: on voit que t'es encore débutante, t'es encore gentille avec tes personnages. Et elle avait raison. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des choses, je me disais, oh, je peux pas faire ça quand même. Et finalement, on va se dépasser soi-même vers des choses peut-être moins agréables pour les personnages, quel que soit leur bord. Et à un moment, on devient beaucoup moins gentil avec nos personnages. Et aujourd'hui, je me rends compte que je leur fais vivre des choses qui, il y a encore 4-5 ans, quand j'ai commencé, jamais j'aurais osé. Et pourtant, ça va pas forcément très loin. Hein, c'est pas forcément. Ouais, mais je vais dépasser mes propres limites, et je me dis, je suis peut-être pas encore au bout de dépasser ces limites-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore écrire plus tard? Voilà, et elle avait raison. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, oui, c'est vrai, j'étais super gentille avec mes personnages, et je le suis moins, et voilà, je vais peut-être être encore moins gentille avec eux dans 2-3 livres, j'en sais rien, ou peut-être qu'à un moment, je vais me dire, ah non, ça suffit, on va redevenir gentil, j'en sais rien du tout. Mais elle a raison, je suis beaucoup moins gentille avec mes personnages maintenant, je les torture plus, que ce soit physiquement ou mentalement, je les fais... Mais finalement, c'est vrai que Comme on disait, les héros tout blancs, déjà ça n'existe pas dans la vie, personne n'est tout blanc. On a tous des mauvaises pensées à un moment, il y a tous des choses dont on n'est pas fier qu'on a fait dans la vie, donc ça n'existe pas, et pour pouvoir s'identifier à un personnage, il ne peut pas être tout blanc, quoi. C'est pas possible, il faut qu'il ait des failles, il faut qu'il fasse des erreurs, il faut qu'il ait des hésitations et des errements pour qu'on se dise, ah ben oui, mais il est exactement comme moi. Et en même temps, on se retrouver aussi dans un personnage négatif, ben parfois, c'est aussi jubilatoire. C'est aussi dévoiler une part de sa noirceur, de dire « j'ai ça en moi, je n'ose pas trop l'exprimer parce que ça ne se fait pas, mais voilà, je l'exprime à travers ce personnage. » Et bon, ça fait un petit frisson, quand même pas mal, quoi. Donc tout ça, c'est voilà, on est, comme je dis, on est ni noir ni blanc, et ni les héros, ni les méchants, ni la réalité, ni comme ça. Et quand on parle de Game of Thrones, c'est pareil. Quand on parle de ses motivations, chacun voit midi à sa porte et chacun va essayer d'œuvrer pour ce qu'il pense être juste ou pas, mais en tout cas, de son opinion, aller de l'avant dans sa vie. Et la moralité et la justesse de cette évolution, finalement, importe peu par rapport à l'autre. C'est sa propre... On est un peu le centre de sa boussole et on se dit je vais par là et ce qui se passe autour, pff, voilà, peu importe. Et bon, après, j'irai pas si loin que ça dans des romans jeunesse. Mais comme j'écris aussi pour Young Adult, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire et de dire autrement. Et c'est intéressant justement de pouvoir naviguer sur des tranches d'âge différentes et tendre vers l'adulte pour pouvoir aller vers des choses un peu plus difficiles, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Et c'est intéressant, ça me permet d'explorer plus de possibilités. Voilà, quand j'écris pour les 7 ans, je ne vais pas écrire pareil que quand j'écris pour les 15-25, ça c'est sûr. Hein. Donc, oui, on se limite quand même d'une certaine manière.
Et puis les petits, voilà, justement, 7 ans, c'est encore un âge où on dit c'est qui le méchant ?
Oui, ils ont besoin de pouvoir se référer comme ça et d'être rassurés par le gentil. Oui. C'est un âge où, quand on va raconter des contes aux enfants le soir avant de dormir, c'est pas le gentil qui va leur faire faire des cauchemars, ça c'est sûr. Et puis tout ça, ça commence à, on va dire, à se désorganiser au bout d'un moment, quand on commence à être adolescent et qu'on se rend compte d'ailleurs que ses parents sont pas parfaits, que les humains, les adultes sont pas parfaits, qu'eux aussi font des erreurs et qu'il y a tous ces piédestals qui s'écroulent les uns après les autres et que d'un seul coup, plus rien n'est aussi tranché au niveau de l'évolution de l'enfant et donc du rapport qu'il a au personnage dans la littérature de l'imaginaire en général.
C'est amusant parce que du coup, on a une évolution vers l'antimanichéisme qui se reproduit à la fois au niveau du genre, des genres de l'imaginaire, de votre trajectoire d'auteur et puis de la maturation de chaque lecteur au fil de sa vie. Et...
Oui, absolument, c'est une espèce de parallélisme. Mais après, je peux régresser si je vais écrire encore pour les plus jeunes. Hein. Mais voilà, mais c'est intéressant d'explorer tout ça, de voir jusqu'où on peut aller et comment on va définir le héros ou l'anti-héros en fonction des âges et en fonction du public à qui on s'adresse. C'est toujours intéressant. Puis voir aussi quelles limites on peut dépasser et lesquelles on peut pas dépasser. Mais je pense quand même que plus on tend vers l'adulte, le young adulte, on peut se permettre des choses plus difficiles, ça c'est certain. On arrive quand même à un niveau de maturité des lecteurs qui évolue très vite. Hein. Ils sont confrontés à des choses à 15 ans maintenant. Enfin, moi, je vois quand j'avais 15 ans, il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même niveau de maturité, c'est pas du tout le même accès aux choses de manière générale, à la violence, à la compréhension du monde, avec les infos et tout ça, c'est pas du tout la même appréhension du monde aujourd'hui. Et donc, je pense que le jeune de 15 ans aujourd'hui va accepter ou va être capable de supporter des choses que moi, peut-être à 15 ans, j'aurais pas vu parce que on n'en parlait pas, ça se disait pas, ça se faisait pas à l'époque.
Oui, puis avec le. On est effectivement, en plus, avec les nouveaux romans insistant sur une relativité des choses qu'on propose à partir de l'adolescence, en train de former des générations de lecteurs et de spectateurs qui effectivement auront encore un taux d'acceptation différent. Donc je vais finir sur la question. Alors vers où allez-vous, où vous arrêterez-vous, toujours plus loin dans ce sens, Adrien, vous avez envie de revenir à un héros ou un groupe ou voilà, qu'est-ce qui vous fait envie?
J'avoue que je change d'idée comme de chemise en fait, donc ça varie très souvent.
Comme de cheveux.
Voilà, une fois par imaginal. Oui. C'est vrai, ça. ouais, j'avoue que j'ai tendance à changer pas mal de points de vue. Des fois, j'ai envie d'avoir plein de personnages comme dans La Geste par exemple. Beaucoup moins comme dans Notre-Dame des Loups. Des fois, j'ai envie de suivre qu'un seul personnage, mais ça m'énerve très vite parce que j'aime pas avoir qu'un seul point de vue en fait.
Je considère toujours c'est posé, ça donc va avec
un seul point de vue, ça m'a toujours énervé.
Beaucoup de points de vue, du coup.
Voilà. Un seul point de vue, ça me suffit pas, donc il m'en faut au minimum 2-3 et j'essaie de réduire le nombre de personnages pour éviter que les gens se perdent parce qu'il y en a plein qui disent j'arrive pas à suivre. Je suis pas sûr de revenir au gentil paladin lumineux des légendes parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse vraiment, à moins que j'arrive à le transformer en fanatique, dans ce cas c'est plus rigolo. Mais en dehors de ça, non, ça m'amuse pas vraiment d'avoir un personnage parfaitement bon, sauf éventuellement en le mettant en confrontation avec des gens qui lui expliquent que le bien c'est bien sympa, mais c'est peut-être pas suffisant pour. Tiens, c'est une bonne idée ça. Voilà, je trouve. Oui, je pense pas que je vais revenir vers un grand gentil. Ça, non.
Gabriel Cas, vous allez continuer à suivre Gaëline ou
Non. Alors, mon prochain bouquin, en théorie, je ne sais pas si c'est celui-là. Il y a un bouquin qui va suivre, qui sera dans le même univers que Le Puits des Mémoires et La Maîtresse de Guerre. En théorie, mon prochain bouquin est un thriller fantastique dont le héros est totalement détestable. Mais vraiment détestable.
Un vrai
méchant. Oui et non, justement. Le but est d'essayer de vous le faire aimer d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est un bouquin bizarre. Donc, très honnêtement, soit il marchera, soit ce sera un flop monstrueux, parce qu'il est un peu bizarre. Donc on verra. Mais c'est justement l'anti-héros par excellence. Donc je ne sais pas du tout... Comment je pourrais le définir sans spoiler, parce que c'est un pitch un peu étrange, mais c'est effectivement quelqu'un de totalement détestable.
Une tentative, voilà, pour se mettre du point de vue du...
Même pas. C'est quelqu'un qui commence comme vous et moi et qui se retrouve confronté à une sorte de... On va appeler ça d'overdose de pouvoir, et il le gère comme il le gère. Non, c'est un thriller, encore une fois, donc pouvoir, il faut prendre au sens pas magique, bien sûr. Mais bon. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas beaucoup le spoiler, mais le principe est là. Et je voulais aussi rajouter qu'il y a quand même une personne qui est totalement blanche sur cette planète, c'est ma grand-mère. Mais c'est tout. Voilà.
Ça existe.
Si, si.
Disons que moi, c'est comme Karina. Je crois qu'au fur et à mesure de mon écriture, j'ai évolué sur, en faisant mal à mes personnages et tout. La Ilan, c'était vraiment un conte de fées. J'avais un seul personnage qui était ambivalent. Qui était en fait l'ancien méchant de la guerre précédente et qui finalement était du côté des gentils et c'était le personnage que je préférais. Dans Éternité, au tout début, mon majeur était assez mystérieux et on m'a fait la réflexion de « Oh oui, mais avec toi, les grands méchants, c'est comme pour Disney, ils font peur mais on voit rien ». J'ai été très vexée parce que c'était pour moi, ok, c'est pas le personnage principal, il y a plein de choses à côté, il y a plein d'autres méchants, mais celui-là, non, mince, on devait le craindre. Donc je suis allée loin, et je crois que c'est peut-être poussé par cette phrase-là, jusqu'à ce que mon éditrice, à un moment donné, sur une scène de torture, m'a dit « Mais tu veux vraiment aller jusque-là ?» Et donc là, ça a fait « Ok, là, c'est peut-être un peu trop. » Donc on va dire qu'il y a quelques phrases qui ont été censurées. J'étais d'accord. Et maintenant, je pense que pour le prochain, ça sera un roman de fantasy jeunesse. Donc les méchants, il y a de la violence au niveau sang, mais ça redeviendra un peu plus manichéen pour celui-là. Enfin, les gentils ne sont pas blancs. De toute manière, c'est fini, ça, je crois. Et donc, je pense qu'après, ça sera au goût de la lecture. Et justement, on ne saura pas si mes méchants sont vraiment épouvantables ou s'ils sont plus sympas.
D'accord. Donc Régis va devoir en dire un peu plus sur la suite, la mystérieuse suite.
Oui, oui, la mystérieuse suite. Toutes les suites sont mystérieuses, sinon c'est pas un roman. Et donc, moi je crois que nous avons la même éditrice, Mireille Rivalin, qui m'a dit un peu de la même manière qu'il ne faut pas hésiter à tuer ses personnages. Voilà. Il faut zigouiller ses personnages parce que ça permet de faire un peu de ménage, ça permet de relancer un peu l'attention. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a fait réfléchir. Hein. C'est vrai que dans le Rio Fantasy traditionnel, les bons sont tellement bons qu'on va les garder jusqu'au bout. Et Martine, justement, nous a donné une leçon sur ce plan-là. On peut prendre des bons, et les bons aussi sont dans un monde de danger. Et à force d'être habitué à avoir des héros au début qui vont presque tous rester vivants jusqu'à la fin, en dehors de Boromir, par exemple, il fallait bien en zigouiller un, et c'était naturellement pas le plus sympathique. Mais à la fin, tout va bien, une espèce d'happy end, et on sait, nous, que malheureusement la vie c'est pas ça, et si on veut que nos romans à un moment donné parlent un peu de la vie et parlent de l'humanité, c'est quelque chose effectivement à laquelle on doit réfléchir un petit peu. Le vrai méchant c'est plutôt moi, c'est plutôt l'auteur, puisque c'est moi qui lui faire du mal à mon personnage, et c'est un petit peu ce qui se produit au fur et à mesure que l'histoire avance, hein, pour la rendre plus vraie, tout simplement, pour la rendre plus vraie. Cela dit, pour ceux qui connaissent un petit peu mon livre, vous savez que c'est un jeu de pistes, et en même temps c'est un jeu de poupées russes, c'est-à-dire que ce sont des histoires dans des histoires dans des histoires qui vont se construire avec le temps, hein, parce que c'est une histoire qui est assez grande, et dans lequel je ne donne pas, à aucun moment je ne donne toutes les clés, hein, donc, et ça, c'est aussi peut-être ma méchanceté, c'est-à-dire que je ne vous donne pas les clés, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez nouveau, pas chez moi, hein, mais chez nous tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en appelle au libre arbitre du lecteur, hein, qui va devoir, sur le plan moral, se positionner. Alors qu'effectivement, dans la littérature des décennies précédentes, ce n'était pas le cas. On nous disait la règle du jeu, ça c'est les bons, c'est les méchants, il faut aimer cela, il faut détester cela. Et le retournement, c'est quand le méchant, finalement, avait une raison pour être méchant. Et ça, c'était la structure narrative assez classique à cette période-là, ça a changé, heureusement. Donc, pour ce qui va advenir dans les tomes suivants, le vrai méchant, vous ne le connaîtrez pas encore, mais j'ai une vision extrêmement manichéenne du monde. Voilà. Mais vous ne le connaîtrez pas encore. Vous allez commencer à entendre parler effectivement de cette vision assez manichéenne, mais qui ne va pas apparaître pratiquement dans cette histoire-là, en fait. Je ne vous ai pas renseigné grand-chose, je sais bien. C'est un peu flou.
C'est ce qu'il faut. Donc la conclusion, ce sera que les auteurs donc sont des sadiques. Hein. C'est eux qui sont dans le camp du mal, hein, et donc nous les remercions quand même. Merci à vous.